RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Bonjour à toi, inconditionnel de Marco Grassi et Alain Caviglia. Bienvenue dans le podcast After Lyon. Avec nous cette semaine, Édouard G. Salut Édouard.
Salut Nico, bonjour à tous.
Et Édouard, on a convoqué une des quatre drôles de dames, la voix italienne de l'After. Johan Crochet est avec nous. Salut Johan.
Salut Nico, bonjour à toutes et à tous.
Avec nous pour parler de l'homme qui doit relever un monument en péril du football français. Fabio Grosso a-t-il la dimension pour un tel défi? Quel style de jeu prend-il? John Textor prend-il un risque mesuré ou inconsidéré? On en parle avec Johan et Édouard. Vous écoutez le podcast After Lyon. C'est parti.
Dès qu'il est arrivé cet appel, pour moi, ça a été quelque chose de grand. Tout de suite, ça a été ma première choix. Pour moi, être ici, c'est quelque chose de vraiment grand. Et je vais travailler tout le temps pour essayer de contracambier cette confiance.
Le premier mot de Fabio Grosso en conférence de presse, après son intronisation. Déjà, Édouard, il a quitté, je rappelle, la France en 2009, Lyon en 2009. 14 ans après, son français est quasiment intact. Déjà, c'est déjà une preuve assez encourageante de son adaptation qui sera rapide, on imagine.
Exactement, et il avait déjà, à l'époque, il nous avait tous bluffés parce qu'il savait parler français particulièrement bien, à tel point qu'une fois en conférence de presse, je lui avais demandé s'il avait, dans nos premiers pas, s'il avait un parent qui était français. Non, il l'a appris à l'école, et on a toujours eu, et on l'a déjà vu hier, et on va l'avoir encore plus, non seulement il parle français bien, mais il a un vocabulaire riche, donc il peut faire passer beaucoup de notions, et on l'a senti déjà hier dans la conférence de presse, voilà, il y a aussi des oublis volontaires, on va dire, dans ce qu'il dit. Il reste vague, un peu flou. Ça lui permet vraiment de délivrer un message, avec en plus ce petit accent qui va bien. Donc, ça redonne déjà juste le sourire derrière justement son visage qu'il a présenté très très souriant et bien évidemment toujours avec ce charme et cette classe et cette élégance.
Tu l'as trouvé tel que tu l'avais connu il y a 14 ans, je rappelle, hein, deux saisons à Lyon en tant que joueur, latéral gauche, 2007-2009, un titre de champion de France avec Alain Perrin, et puis Claude Puel arrive, c'est un peu le début de la fin des titres pour l'Olympique Lyonnais. Je rappelle aussi champion du monde avec l'Italie en 2006, auteur du tir au but décisif face à l'équipe de France en finale du Mondial. Mmh. Il ressemble, il est le même 14 ans après, tu le trouves, dans son allure, dans sa façon d'être, dans son sourire, dans ses mots également?
Ouais, ça, nos âges, ça nous rajeunit. En plus de 14 ans, on fait un petit bond en arrière. C'est vraiment très très bien. On l'a vu très souriant, très charmeur, comme à l'époque. Et puis dans les mots qu'il a sortis, on a ressenti le joueur qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, moi, j'avais un joueur en face de moi qui était timide au début. Alors, il venait un an après la finale de la Coupe du Monde. Donc, il n'était pas forcément le bienvenu sur les terrains de France. Il y a eu quelques sifflets parce que c'est lui qui avait marqué ce fameux dernier tir au but. Mais toujours derrière ce collectif, quoi. C'était les mots qu'il donnait. Toujours présent au cours de ces deux saisons, 67 matchs, 2 buts. Et puis, quand on a regardé un petit peu son passé, je me suis replongé dans les souvenirs. Quelque part, et tu l'as un petit peu dit, Nico, il a tout connu à l'OL. Il a connu la fin des titres. Un titre des trophée des champions quand il arrive. Ensuite, le titre et le doublé. Et derrière, Alain Perrin et Christophe Galtier sont remerciés et Claude Puel arrive. Et puis la saison 2009, elle se termine en échec monumental. D'ailleurs, c'était des mots du board lyonnais à l'époque. Alors l'échec monumental à l'époque, il y a 14 ans, c'était troisième de Ligue 1 et une élimination au huitième de finale de Coupe d'Europe. Parce que justement, les deux fois Ligue des Champions, les Lyonnais avaient été éliminés en huitième de finale. La première année par Manchester United, la deuxième par Barcelone. Et à chaque fois, ces deux équipes avaient gagné la Coupe d'Europe à la fin. Donc, il a connu les titres et le début du déclin, si on peut dessiner une ligne descendante depuis.
Johan, toi qui as suivi Fabio Grosso dans ses expériences de coach en Italie, 5 saisons pleines, Bari, Hellas Vérone, Brescia, Sion en Suisse, et donc Frosinone, on est sur quel type de personnalité? Restons sur l'homme pour l'instant avant de parler du tacticien. Est-ce que c'est un caractère? Nous, on a l'image d'un homme assez posé, assez discret. Homme de peu de mots également.
Oui, c'est pas quelqu'un qui a fait des vagues particulièrement. Il y a des entraîneurs qui sont bien plus expansif aussi en conférence de presse ou qui montre une personnalité pardon plus forte sur le banc de touche, qui crie un peu plus, qui gesticule un peu plus. Lui est assez calme, assez sorte de flegme anglais, je trouve, sur pas mal de d'images que j'ai pu voir la saison dernière. Après, ça c'est un peu l'image de façade. Par contre, c'est quelqu'un qui a des idées, on y reviendra sur le jeu, mais aussi qui se laisse pas déborder dans la gestion des joueurs. Et je vais prendre un exemple qui a été très marquant en Italie, lors de son passage à Brescia, qui a pas duré longtemps, il a duré 3 matchs en cours de saison. C'était le Brescia donc d'un président qui était surnommé un mange-entraîneur, mangia-allenatori, comme on dit en Italie, parmi deux autres, Zamparini à Palerme et Preziosi au Genoa. Et il avait un certain Mario Balotelli dans l'équipe, et on sait que Mario Balotelli, pour le gérer, c'est pas toujours évident. Faut être bien motivé tous les jours en arrivant au centre d'entraînement, parce que lui ne l'est pas toujours. Et avant un match contre la Roma, un de ces 3 matchs qu'il avait disputé qu'il avait coaché en tant qu'entraîneur de Brescia, il trouvait que Balotelli n'était pas assez concerné, efficace, motivé, etc. Il avait sorti de l'entraînement. Il lui avait dit, écoute, lors du, vous savez, les petits matchs, la petite opposition à la fin de l'entraînement, il lui a dit, écoute, tiens, Mario, t'es pas motivé, tiens, le vestiaire là-bas, t'y vas et au revoir. Et ça avait un peu marqué en Italie, parce qu'il y a assez peu d'entraîneurs qui n'avaient pas cédé aux caprices de Balotelli, notamment quand Balotelli était un peu redescendu de niveau, j'entends quand il avait quitté l'Inter, Manchester City, les grands clubs, etc. Et donc on s'était dit, c'est bien qu'un joueur comme ça, ancien joueur, qui avait connu Balotelli, puisse montrer cette facette-là d'entraîneur qui
plus est jeune entraîneur en plus.
Ouais, exactement, qui met le groupe au-dessus de tout. Puis grosso, il n'avait pas des expériences jusque-là quand même très réussies en entraîneur de groupe professionnel. Je reviendrai pas sur la Primavera de la Juve, donc les U19. Et donc on s'est dit, belle réaction, belle preuve de caractère quand il avait réussi à mettre Balotelli hors du groupe, appuyé par son président, parce que Balotelli n'avait pas été convoqué par la suite pour le match contre la Roma. Donc c'est pas quelqu'un qui fait forcément des vagues, mais c'est quelqu'un qui se laisse pas faire.
Il va avoir besoin, Edouard, à Lyon aussi, il n'y a pas de Balotelli, mais d'affirmer son caractère quand même.
En tout cas, il a affirmé dans ses mots hier l'importance du travail, du collectif, de la détermination, du courage. Chacun doit donner, ne pas prendre et s'améliorer. Donc ça vise un certain nombre de joueurs, même si le travail, cette notion de travail, moi je l'ai souvent entendu, sur tous les premiers discours des coachs qui arrivent. Mais voilà, s'améliorer, travailler, le collectif, il l'a dit vraiment de nombreuses fois, il va falloir que les joueurs se remettent là-dessus et sur le collectif. Alors ça, c'est sûrement des petits appels du pied à Ryan Cherki, à peut-être Ernest Nuama, parce qu'on sent entre les deux joueurs maintenant une concurrence sur l'aspect qui dribblera le plus, en exagérant bien évidemment, mais peut-être qu'il arrive à ce bon moment par rapport à tout ça. Et puis aussi, Johan en a parlé, vu qu'il a fait les jeunes de la Primavera à la Juve, il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe, et comme il l'a dit, moi je regarde pas la date de naissance.
Écoutons-le justement, c'est en conférence de presse, quelle sera son approche à Lyon, sa réponse?
Je sais qu'est-ce que je veux, je sais où je vais arriver, j'aime toujours progresser. Et j'ai une idée claire pour moi, je vais travailler pour la transférer aux joueurs. La chose difficile et importante, c'est convaincre les joueurs que cette chose qu'on croit, c'est la meilleure chose qu'on va faire. Et donc c'est ça le travail que je vais faire, que j'ai commencé à faire, que je vais faire tout de suite cet après-midi avec les joueurs. Et on peut parler par 4-3-3, 4-2-3-1. Mais pour moi, c'est important de regarder les joueurs dans les yeux et transférer ce que est ma détermination et ma passion pour ce travail. Pour monter le niveau, il faut être déterminé et courageux.
J'aime bien ce mélange d'italien et de français dans ses réponses. Determinati, on a compris ce que ça voulait dire. Johan, avant que tu nous parles de ses préceptes de jeu, s'il en a et s'ils sont affirmés, ça donnait quoi sa première séance d'entraînement, mon cher Edouard?
Bah hier c'était assez marrant, c'était lundi après-midi, donc il est arrivé au cœur du week-end après avoir signé le contrat, et lors du match face au Havre, il était dans les tribunes, hein. Il n'a pas voulu aller voir ni avant, ni bien évidemment pendant, ni après le staff, mais il a fait passer le staff intérimaire, mais il a fait passer un message justement à Jean-François Villiers, Jérémy Bréchet, Sonny Anderson et Rémi Vercoute, et ben pour demain vous me convoquez tout le monde à 14h, parce qu'il n'y avait pas forcément de rendez-vous pris pour le lendemain, hein, parce qu'il y avait ce nouveau staff. Et hier à 14h, il leur a fait le petit speech. En gros, c'est ce qu'il nous a dit en conférence de presse. Et à 16h, le premier entraînement. Alors, c'était assez marrant parce qu'il y avait Fabio Grosso et ses quatre adjoints. Donc, il y avait un groupe des titulaires de la veille qui ont simplement fait un tout petit tour et puis s'en vont. Et puis, un autre qui a un peu plus travaillé. Alors, il y avait de l'anglais, il y avait de l'italien, il y avait beaucoup de gestes et surtout beaucoup d'énergie mise par deux des adjoints qui avaient concocté une séance bien vigoureuse pour le peu qu'on en a vu. On en a vu un quart pour les débuts. Le tout avec Rémi Vercoute qui reste dans ce staff. On a vu aussi Jean-François Vuillet, là, qui est l'ex-directeur de la formation à l'OL, qui devrait aussi lui rester pour faire la liaison entre les anciens et l'ancien staff et puis le nouveau au niveau des jeunes. Jérémy Bréchet, lui, retourne avec les U19 et Sonny Anderson retourne à son poste de conseiller du groupe OL Group, peut-être avec un autre poste à un autre moment. Mais voilà, il y avait beaucoup de monde sur le terrain. On était en pleine improvisation d'une certaine manière parce que c'était la première séance, mais une séance déjà de travail dès le lendemain de ce match face au
Il est venu avec ses quatre adjoints, Raphaël Elongo, deux préparateurs physiques, hein, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et un analyste vidéo, Mauro Caretta.
Juste une précision, on sent que ce sont eux qui vont faire les entraînements et on l'a vu qu'il prend un petit peu de voilà, il prend un peu de distance, de recul. Il avait souvent le ballon dans les pieds et il regardait un peu toutes les attitudes des joueurs pendant la période. On sent qu'il veut essayer de prendre un petit peu de recul, en tout cas dans cette première séance, bien évidemment.
Johan, Fabio Grosso est-il un entraîneur dogmatique ? A-t-il un système auquel il ne déroge jamais ? A-t-il un style, une idée de jeu très affirmée ?
Alors, dogmatique, pas spécialement. Moi, le terme que j'utilise dans ce que j'ai vu de Frosinone, notamment la saison dernière, ce qui pour moi résume le mieux Grosso, c'est l'équilibre. L'autre soir, quand l'arrivée de Grosso a été confirmée, je suis allé voir un petit peu les stats de la saison de Frosinone, des stats avancées, etc. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ça confirme un peu cette impression d'équilibre parce que l'équipe de Frosinone ne ressort pas particulièrement sur des stats majeures ou des stats qui tendent vers un dogme. Je parle de la possession, je parle du pressing à la récupération, je parle de l'intensité défensive, je parle du nombre d'occasions créées, l'équipe de Frosinone ne ressort pas particulièrement, beaucoup moins que d'autres équipes. C'est une équipe qui est moitié haut, voire moitié bas selon les stats. Donc il n'y a pas vraiment de dogme précis de Fabio Grosso. Ce qu'il faut quand même tout de suite préciser, et Edouard l'a redit, c'est que il a travaillé avec les jeunes à la Juve et Frosinone, et c'était la troisième équipe la plus jeune la saison passée en Serie B. Pour lui, effectivement, quand il dit qu'il ne regarde pas la carte d'identité, c'est une expression vraiment très italienne qu'on utilise souvent. C'est vrai parce que il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés qu'il aurait pu mettre ou qui avaient une sorte de statut. Mais selon ce qu'il voyait à l'entraînement, il n'hésitait pas à mettre des jeunes joueurs de 20, 22, 23, 24 ans. Il aime bien avoir le ballon, mais il en fait pas un dogme. Je vais vous donner à chaque fois, pour étayer un petit peu tout ça, les stats qui correspondent, issus du rapport de stats que j'ai fait. C'est le Frosinone, l'année dernière, c'est la septième équipe en série B avec la plus haute possession du ballon. En termes de nombre de passes, on est à peu près sur la même chose. C'est une des équipes qui laisse le plus venir l'adversaire sans particulièrement déclencher de pressing haut. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Voilà, je prends un entraîneur italien qui est arrivé en Ligue 1 cette saison, Farioli. Vous voyez tout de suite que un de ses premiers préceptes, c'est de récupérer tout de suite le ballon très haut sur le terrain. Normalement, si on suit ce qu'a fait Fabio Grosso dans ses expériences précédentes, on ne devrait pas voir ça parce que ça fait vraiment pas partie de ce qu'il mettait en place jusque-là. L'intensité défensive non plus, c'est-à-dire qu'il laisse l'adversaire avoir le ballon et se passer le ballon, etc., mais sans vouloir le récupérer même en moitié basse du terrain de manière très prononcée, entre guillemets. Par contre, quand ils ont le ballon, ils veulent que le ballon voyage vite. C'est pour ça que La possession, parfois, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Ne pas avoir une énorme possession, ça ne veut pas dire que le ballon ne circule pas vite. Et ça, chez Grosso, c'est majeur. C'est ne pas avoir 5 touches de balle avant de donner le ballon. Et surtout, toujours chercher...
Intéressant.
Enfin, toujours. Pas toujours, mais régulièrement chercher les côtés. Les côtés ont une importance assez chez Grosso. Mais vraiment, cette utilisation de la largeur pour créer des brèches ensuite... et revenir vers l'axe du terrain où les espaces se seront créés. Ça, c'est vraiment important. Et donc, les ailiers de l'OL, j'imagine, en fonction de moi, ce que j'ai vu à Frosinone, auront un rôle très important là-dedans.
Ça, c'est intéressant, mon cher Edouard. J'ai tiqué un peu quand Johan nous a décrit un jeu rapide, efficace, un minimum de touches de balle. Suivez mon regard, mon cher Edouard.
Oui,
il va devoir réapprendre, en tout cas chasser la nature de certains joueurs lyonnais. Je pense évidemment à Ryan Cherki et aussi à l'arrivant de Nouama.
Oui, Nouama, par exemple, Ryan Cherki, j'ai lu une statistique, derrière Pierre-Emerick Aubameyang avec 19 tirs, lui, il en est à 18 tirs sans aucun but cette année en Ligue 1. C'est-à-dire que, il va provoquer, mais pour l'instant, il n'est pas assez décisif. Et puis, j'imagine que vous avez en tête ce centre sur coup du foulard. Ça va peut-être pas forcément plaire à Fabio Grosso, donc ce qu'il a tenté dimanche soir. Ça va sûrement alimenter un petit peu ces débats, et on va scruter un petit peu le traitement de Ryan Cherki par rapport à tout ce que vient de nous dire Yann Crochet.
Johan,
juste
question...
Nico, je peux préciser quelque chose dans ses préceptes de jeu aussi que j'avais oublié, et ça Edouard va pouvoir nous dire, mais une des positions majeures, de toute façon c'est dans tous les clubs, dans l'évolution du football, le poste de milieu devant la défense, lui il aimait bien avoir quelqu'un de très technique justement pour avoir cette fluidité dans le jeu et donc avoir un joueur qui est en capacité de tout de suite, en une, deux touches de balle, orienter le jeu très rapidement sur les côtés, sur un autre milieu qui décroche, sur l'avant-centre qui vient en face de lui pour solliciter un 1-2, pour solliciter un donne et va et prend l'espace, etc. Et en Italie, par exemple, à Frosinone, la saison 2021-22, il avait Matteo Ricci, qui est un petit milieu de terrain, mais très technique, qui est aujourd'hui à la Sampdoria d'Andrea Pirlo, d'ailleurs qui occupe le poste d'Andrea Pirlo, entre guillemets le poste de joueur qui était Andrea Pirlo à la Sampdoria. Et l'année dernière, il avait Mazzitelli et Bolocca, qui alternaient, c'est-à-dire qu'il aime bien aussi avoir donc un milieu 6 qui est capable de venir chercher le ballon, d'exécuter très proprement dès qu'il le reçoit, mais il sait aussi que finalement, il y a des équipes qui vont vite s'adapter à faire un marquage individuel sur ce type de joueur-là. Donc il en veut un autre aussi à ses côtés pour des espèces de rotations. Si vous voyez, vous prenez trois joueurs, vous faites des rotations au milieu de terrain pour que chacun son tour, on vienne chercher des ballons. Et donc l'année dernière, il y avait donc Mazzitelli et Bolocca, le Roumain qui est aujourd'hui à Sassuolo. Donc ça, c'est vraiment des positions qui sont importantes dans cette idée de il n'y a pas besoin d'avoir le ballon 60% du temps. Par contre, quand on l'a, on veut qu'il voyage vite et on doit être très propre techniquement pour faire le lien entre la défense et l'attaque.
Une différence avec Laurent Blanc, mon cher Edouard, qui a cherché des expériences pendant 6 mois, une sentinelle à l'ancienne, un grand gaillard costaud dans la défense. Lyon l'a trouvé, en l'occurrence, avec Paul Akuoku. C'est pas tout à fait le profil que nous décrit Johan, là, en tout cas.
Non, Paul Akuoku, qu'on a vu d'ailleurs dans la première composition là du nouveau staff avec Jean-François Buillet, très intéressant donc dans son poste de sentinelle. Mais Johan, ça correspond pas vraiment l'aspect technique que tu décrivais.
C'est plus un profil Le Penant, peut-être.
Peut-être, ouais, ou peut-être Maxence Cacré, peut-être qu'il va à ce moment-là peut-être reculer, alors que Laurent Blanc, lui, le voyait plus devant, parce que Paul Akuoku, l'international ivoirien, met beaucoup de puissance, beaucoup de vaillance, beaucoup de bagarre, mais en niveau de qualité de pied, c'est pas, ça fait pas tilt, Johan, avec ce que tu viens de me dire, quoi, en fait, voilà. Mais je l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu juste sur ce match, mais les données, a priori, comme ça, ça
ne correspond pas. Moi, j'ai du mal à imaginer aussi Corentin Tolisso, de descendre d'un cran, être devant la défense seul pour organiser le jeu, ça demande un abattage important pour
après il peut y avoir un Mohamed Elarouche, pourquoi pas, ça peut être à terme un poste pour lui, mais bon, pour l'instant il est un peu jeune, et faudrait voir un petit peu ce que ça donne.
En quelques mots rapidement, les gars, je commence avec toi Johan, tu es sceptique, tu es optimiste, comment tu sens cette arrivée de Grosso à Lyon?
C'est difficile à dire parce que moi, contrairement à Edouard, je connais pas trop la réalité de l'OL comme lui, en fait, donc dans l'after, on m'avait demandé, vous savez, quand il y avait la rumeur Gattuso, puis ensuite la rumeur Grosso, on m'avait dit alors plutôt l'un ou l'autre, et j'avais dit aucun des deux, parce que non pas que je crois pas en ces deux entraîneurs, et j'avais dit pour Gattuso ce qu'il aurait pu apporter, Grosso ce qu'il pouvait apporter, Mais moi, j'ai encore l'image de l'OL. Alors peut-être qu'Edouard va me dire qu'il faut qu'elle disparaisse, cette image-là, mais capable d'attirer des plus grands entraîneurs que ça, en fait, entre guillemets. Quand on parlait de Glasner, par exemple, pour moi, ça me faisait plus envie de l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'avais répondu ni l'un ni l'autre. Après, grosso, quand on s'intéresse à son parcours, il y a pas vraiment de logique, je trouve, parce qu'il s'est mis en danger en allant dans des clubs où on savait très bien que ce serait très compliqué. Quand vous avez Cellino à Brescia comme président, quand vous avez Constantin à Sion comme président, je veux dire, vous ne pouvez rien construire là-bas. Lui qui aime construire, là-bas, c'est certain que vous ne pouvez rien construire. Et puis après, il y a une autre chose, pour finir rapidement. Sur toutes les saisons qu'il a faites au niveau professionnel, il y en a vraiment une de très réussie. Ça veut pas dire qu'à Bari, il a pas fait du bon boulot. Ça veut pas dire qu'à l'Hellas Verona, il y a eu des choses intéressantes de mise en place. Et d'ailleurs, par exemple, un joueur comme Mattia Zaccagni, qui est international italien, qui joue à la Lazio, un des meilleurs joueurs italiens la saison passée en Serie A, disait de lui d'ailleurs quelque chose de très intéressant et qui pourrait être très bien aussi pour les joueurs lyonnais. Il avait dit, grosso, il a une qualité majeure, je lui dois beaucoup. Il valorise les qualités de ses joueurs. Il fait ressortir ce que vous avez de meilleur en vous. Donc, peut-être qu'individuellement, il va réussir aussi à faire évoluer certains joueurs qui ont besoin de ce step supplémentaire pour vraiment s'affirmer dans cette équipe de l'OL. Donc, ni pessimiste, ni trop optimiste, mais vraiment, pour le coup, très curieux de voir ce que ça va donner.
Bon, mon cher Edouard, il a 9 mois pour prouver ce garçon, parce qu'il a signé un an seulement, avec une option. Donc, voilà, c'est dire que pour l'instant, on se dit, bon, on va tenter le coup avec Grosso. C'est pas un entraîneur encore référencé pour le signer au long cours, mais on va voir, quoi.
Ouais, mais à Lyon, on a lancé des entraîneurs, hein, Bernard Lacombe, Rémi Garde, qui c'est qu'on a, Bruno Genesio. Donc cette première à Lyon, ça fait pas forcément peur au board. Alors vous allez me dire, le board est tout nouveau. Il a dit hier qu'il prenait des risques, il aimait ça, et il connaît la situation. Hein, il sait que c'est pas l'OL qu'il a connu en 2008 et encore moins en 2009. On est 14 ans plus tard. Il connaît cette instabilité. Il connaît les qualités et surtout les défauts de son groupe. Après, moi, je serais tenté de dire que pour l'instant, n'importe quel entraîneur a des difficultés parce que mine de rien, depuis le départ de Bruno Genesio en juin 2019, nous en sommes au 6e entraîneur. Vous imaginez l'instabilité en 4 ans, en à peine 50 mois. Donc c'est d'abord que l'institution se solidifie autour de John Textor, que tout ça s'arrête, tout ce qui se passe autour, le FC Hollywood, et peut-être qu'après ça pourra lui donner à lui et à ses joueurs, parce qu'on sent quand même que c'est un manque de confiance évident chez les joueurs dans la tête, qu'une fois qu'il aura peut-être, je ne sais pas comment il peut être bon là-dessus, Johan, mais une fois qu'il aura guéri la tête, peut-être que les jambes iront mieux, à l'image d'un Alexandre Lacazette qui était absent dimanche soir.
Et on suivra sa première partition samedi soir, 21h. Attention, déplacement chez le deuxième de Ligue 1, Brest, pour l'Olympique Lyonnais de désormais Fabio Grosso. Merci Johan, c'est un plaisir.
Merci à vous messieurs.
Merci pour tes lumières et merci à toi mon cher Edouard aussi.
Toujours un plaisir.
On sera la semaine prochaine pour un nouveau podcast After Lyon, hein, notamment pour débriefer ce Brest OL. Bonne semaine à tous, à très vite.
Ciao. RMC After Lyon.